France Inter.
Merci Amélie Perrier. Et c'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudadi, avec Emma, bonjour Camille, Lavard, Breton, Guy Pastureau, Bruno Péki, Old de la et nos invités Virginie Fira et Thomas Prudhomme.
Bravo. France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Bonjour Virginie.
Bonjour
habituée
tout le monde.
Habituée de cette émission, mais Thomas, c'est la première fois, en tout cas avec moi.
Oui, c'est ma première fois.
Avec, non, c'est jamais vu.
Tu m'as pas trompé avec Thomas?
Ça commence.
Non, ok, très bien.
Bienvenue.
C'est votre troisième long métrage, avec Virginie Efira qui retrouve d'ailleurs Harry Valtalter comme partenaire.
Oui, il a joué mon frère dans un précédent film.
Et mais maintenant,
là, c'est mon mari
avec.
Et je rêve d'un troisième film. Je sais pas, Thomas trouve quelque chose.
Pour faire des enfants.
Une autre relation.
Les braises, on est en pleine manifestation des Gilets jaunes. Petit tour de table pour savoir les souvenirs de manifs que vous avez faites quand vous étiez... Les premières manifs peut-être, c'est toujours les plus marquantes, je sais pas. Camille, t'as déjà manifesté?
Alors, à l'époque du Covid, quand les salles de spectacle étaient fermées, c'était en décembre 2020, je crois.
Et tu n'avais pas le droit de sortir. Là, tu manifestais dans la rue, seule, en brûlant
non,
des pneus.
On pouvait sortir, juste pour aller dire qu'on n'était pas contents et qu'on voulait des théâtres. Tu te rappelles pas?
T'as manifesté?
Ouais, enfin manifesté, oui, j'ai bu des coups en marchant. Quoi.
C'est la seule manif que t'es faite?
Non, et après au lycée, il y avait l'histoire de CPE là.
Ah ok, d'accord.
L'histoire de CPE,
ouais, c'est ça.
Le début de combat.
De vaquer si tu savais. Et toi, Emma?
Moi je pense que la première manif que j'ai faite, c'était parce que c'était une raison pour pas aller au lycée. Et que c'était, on savait pas pourquoi on manifestait en fait. On était juste là à fumer des cigarettes roulées. Mais la période des Gilets jaunes, moi je me souviens, j'étais au lycée en fait, je suis un bébé en fait. Donc,
j'étais... Ah, t'étais au lycée?
Ouais, j'étais au lycée, j'étais en première.
Ah ouais.
Désolée.
Non,
ça fait mal. Oh là là, on s'assoit bien.
Fin de cette émission, je vais rentrer me coucher.
Ciao.
Leïla, ta toute première manif.
J'ai toujours manifesté moi.
Oui, mais la première, ou la plus marquante.
Est-ce que tes parents manifestaient aussi?
Ouais, mes parents manifestaient, j'ai été élevée très tôt sur le rapport au droit de grève et à ce que ça voulait dire, et j'adorais savoir pourquoi, justement, je me voyais pas marcher si je savais pas. Et après, quand j'ai été prof, j'ai aussi beaucoup manifesté et beaucoup fait surtout les âgés, les moments où on discute, on essaie de faire des propositions. Je trouve que c'est au-delà de la manifestation et du défilé dans la rue, il y a aussi tout ça, en fait. Et c'est ce qui est le plus intéressant.
Il n'y a pas une manif qui t'a marqué plus qu'une autre?
Je dirais les manifs où on réclamait un tout petit peu plus de moyens dans l'éducation nationale pour acheter des livres, par exemple, aux élèves. Okay. Des choses basiques.
Bruno?
Moi, pareil que Leïla aussi avec mes parents, quoi, qui m'ont un peu éduqué à ça. Et la première manif, c'est une manif du 1er mai où mon père m'amène là-bas et je suis enfant. Et je comprends pourquoi je dois me lever plus tôt que
et tu vois,
le 1er mai et je dois me lever pour aller marcher.
Ça, c'est ça, exactement.
Et tu rencontres Jean-Marie Le Pen et tu te dis
j'ai pas précisé quelle manif.
Jeanne d'Arc. Tanguy.
Moi j'ai des parents très ancrés à gauche donc je suis leur grand désespoir d'ailleurs.
Ils te parlent plus depuis qu'ils t'écoutent.
Quand j'étais petit, on a fait les manifestations contre l'installation d'une centrale nucléaire en centre-Bretagne, puisqu'il n'y a pas de centrale, enfin il y en a une, mais elle est aujourd'hui désactivée. Et donc il y avait un projet de grande centrale nucléaire et tout le monde, enfin beaucoup de gens manifestaient dans la lande comme ça, il y avait des gens déguisés en squelettes, c'était assez effrayant en fait, des cercueils avec marqué on va tous mourir en fait.
Mais les Bretons dans... Est-ce que vous êtes déjà battu ou pris des gaz
lacrymaux,
tout ça?
Non, pas vraiment.
Si, à Paris, dans des manifestations pour le mal logement et pour des immigrés qui ont délogé d'un gymnase. Sans te prévenir, tu te prends un petit coup de gaz lacrymaux dans la gueule, c'est bien. Ouais.
Moi, la plus marquante, c'est peut-être quand je portais la croix, la manif pour tous. Ça m'a. C'était fou.
Chacun son militantisme.
J'ai jamais manifesté parce que je suis un peu trop agoraphobe, malheureusement. Même si je soutiens les mouvements.
J'ai manifesté dans les. On a même passé carrément 5 mois sans cours du tout à la fac, tellement la manif prenait de l'ampleur. C'était.
En mai 68.
C'est pas juste. C'était un petit peu après.
Pas loin. Ouais. C'est pas loin. J'ai l'année en tête. Je n'ose même pas la donner.
C'était quelle année
non,
de baquet.
Et puis, oh, ça va. Voilà. Et puis. Non, et puis la manif qui m'avait le plus ému, il y en a eu deux. Celle pour la présence
de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, où là, c'était chaud.
La première fois que je votais.
Et puis le Je suis Charlie, c'est-à-dire que cette marche en silence autour de République, avec les enfants, avec les familles, tout ça, c'était très...
Il y a toute une génération aussi qui se souvient de Malik Houssekine, et ce mouvement 86 peut-être.
Oui, je te remercie. Je te remercie de citer les manifs où je suis le seul à avoir été. Autour de cette table, vous êtes trop jeune. Virginie, vous êtes une manifestante. En Belgique, il y a des grosses manifs ?
Un peu moins quand même. Donc moi, c'est un passif. Là, quand je vous entends, je suis pleine d'admiration, un peu mollasson. Mais non, je ne vais pas dire que la Belgique est mollassonne, mais il y a quelque chose sur la contestation qui appartient davantage au territoire français, à l'histoire de France et tout ça. Donc, évidemment qu'il y a des manifestations en Belgique, mais c'est quand même la régularité moins importante.
Donc
quoi.
Vous n'avez fait aucune marche, aucune manif
jeune, j'avais une sorte de léthargie totale. Je voyais des manifs à la télé, je disais « Ah ouais, donc lutter pour ses droits, ah ouais, incroyable !» Et après, maintenant j'habite pas loin de Bastille, tout ça, quoi, donc c'est plus facile.
Vous avez juste descendre.
Tous les samedis.
Votre activité,
le
marché, puis après, bim, la manif.
Thomas, Christophe, vous avez un souvenir. Je parle pas de... On va parler de votre film, hein, je vous rassure, parce que je vois le réalisateur inquiet.
Tout ça a des résonances. Ouais,
non, pas du tout.
N'empêche.
Non, moi, j'en ai fait des manifs, mais finalement, ma première manif, elle était pas très politique. C'était une manif avec les supporters du virage Auteuil au Parc des Princes.
Oh là, oui.
C'est un des deux virages de supporters du PSG.
Il y a le virage d'extrême droite et le virage de droite. C'est les...
Pas du tout.
Boulogne quand même.
Boulogne, mais à l'époque, Auteuil, c'était très populaire, très mixé. C'était les ultras et voilà, on manifestait. C'était ma première manif. Je devais avoir 20 ans. Contre la hausse du prix des places. Voilà.
Ça, c'était avant que les Qataris...
Oui, c'était longtemps avant. C'était quand on n'était pas les champions d'Europe. Non, c'était... Et il y avait de l'électricité et j'ai senti les lacrymos à cette première manif.
Ouais, pareil.
C'était pas très politique.
Comme les coups de matraque, c'est-à-dire recevoir un coup de matraque, se baisser, on se dit j'ai le blouson, j'ai le pull, ça va aller. Et on voit qu'un coup de matraque, ça peut quand même labourer.
Vous en avez reçu ?
Ah oui. Puis ça laboure le dos, ça fait super mal.
Ah bah oui, je veux bien croire.
Super mal. Et les lacrymos, elles portent bien leur nom.
C'est ça.
Ça pique. Alors, on parle de tout ça parce que les braises, justement, brûlent dans ce film. Ça retrace les gilets jaunes, évidemment, c'est la toile de fond, mais j'ai presque envie de dire ça retrace une histoire d'amour confrontée à un engagement politique de chaque côté. Si on extrapole, ce n'est pas que les gilets jaunes, c'est plus que ça.
Complètement, ouais. Je pense qu'au cœur du film, c'est effectivement une histoire d'amour, c'est un peu la rencontre entre la politique et le couple, quoi.
Et l'intime,
L'intime,
quoi.
Lorsque on découvre, ça peut arriver d'ailleurs ce genre de situation, lorsqu'on découvre sur des élections, on va dire, tendu, pour qui d'un coup vote l'autre. On n'est pas forcément au courant des intimes convictions politiques au sein d'un couple.
J'espère que si.
Bah pas toujours.
Ah bah mince.
Pas toujours, on peut découvrir.
Tu peux découvrir tout d'un coup.
Tu découvres tout d'un coup que
comment tu peux découvrir tout d'un coup.
Le petit papier jeté dans la poubelle, dans
que t'en as pas forcément parlé en permanence.
Tu as abordé le sujet très vite.
Ouais. Ouais. Ouais, pendant la dissolution, il y a eu ça.
Je crois qu'il
ne doit
pas être nombreux les couples qui parlent pas de ça ou qui se cachent le truc.
Une première question.
Pas qui se cachent. D'accord. Poussé dans les retranchements, il y a toujours le côté « Ouais, mais quand même !» Et là, t'entends des trucs, tu fais genre « Mais donc, je vis avec quelqu'un qui ne partage pas les... »
Mais tu peux avoir ça sur des sujets d'opinion, par exemple.
Oui, absolument.
Tu vois,
mais pas des sujets
qui appartiendraient à un bord politique ou à un autre, mais pas forcément sur...
Je pense qu'il y a des couples qui se sont découverts avec l'un des deux qui dit « Ouais, on n'a jamais vraiment essayé le Front National. » Je pense que là, depuis quelques années, il y a dû y avoir...
Après,
des...
si on se rejoint sur le sexe, c'est bon, quoi.
Non.
Non.
On va parler de ces braises, aussi bien les braises des ronds-points que les braises de l'amour, justement, sans aller jusqu'à dire les feux de l'amour. Arié Wendlatter et Virginie Efira sont absolument formidables dans ce film réalisé par Thomas Krutorff. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici le fan de Virginie et de Thomas, Monsieur Oldela.
Oui, avec ma voix d'aujourd'hui. Ah,
je suis fan de Virginie et Fira. Je suis fan des deux, mais je préfère Fira. Mais Virginie nous prouve qu'on peut être belge et parler droit. Pour dire 8, elle dit 8 et pas 8 comme fait Lisa. Je suis fan, fan de Thomas Kuitoff. Il est super, même si pour écrire son nom, c'est bof. J'ai adoré votre film Rétention et ça me rappelle qu'il faut que je fasse gaffe à pas manger trop de sel. Et vous êtes là ensemble aujourd'hui pour Les Braises. Un documentaire sur tous les Bretons, les Braises. Ils ont des gilets jaunes dans le film, bon, mais surtout, ils boivent tout le temps et ont des recettes bien cheloues.
Oula.
Quand il fait froid dehors et que t'es un peu sur la paille,
ok,
et que la faim t'appelle, tu rêves que de graille. Quand c'est la chandeleur, à plus ou moins 6 mois près, prépare un truc spécial. Oh, si fucking spécial. J'aime les crêpes avec du beurre doux et du miel, c'est mon délire. Allez, on délire.
C'est aujourd'hui.
Qui mets du rhum. Je suis fan du film. Je pense qu'il va faire. De toute façon, depuis toujours, j'adore les films de Braise. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Aldelaf, t'es où, t'es quand,
t'es sur scène bientôt
et
ou pas?
Et surtout pourquoi?
Je suis à Strasbourg ce vendredi sur un plateau d'humour incroyable, voilà, avec plein de copains, Madénian, voilà, alors c'est organisé par Anthony Adrantin, j'ai à Strasbourg.
Très bien.
Et la halle Rhenus.
Et la salle, la halle
Rhenus.
Rhenus, parfait. On parle de cet embrasement et de cet engagement, Thomas, que vous filmez, parce que l'engagement dans le couple et l'engagement dans la vie sociale, dans la politique.
Ouais, c'est un petit peu ça le film. Effectivement, c'est l'histoire d'une femme qui découvre l'engagement politique, ouais, comme beaucoup de gens l'ont découvert à travers les Gilets jaunes. C'est un mouvement qui a initié beaucoup.
Qui est même surprise, ouais, qui est même surprise par l'impact, par en se disant waouh, on est déjà tant sur le groupe.
C'est la découverte du collectif et de la force, de la joie du collectif aussi, de pas être seule.
Ouais. C'est un éveil politique, peut-être un peu intellectuel. Elle commence à voir le monde différemment. Puis aussi, c'est des amitiés, c'est quelque chose de physique, le contact à la foule. Et puis voilà, c'est un mouvement assez d'ampleur immédiate et assez fulgurant, qui évolue très vite, quoi. Donc ça bouscule un petit peu sa perception, quoi.
Ouais, il y a presque une scène, pas d'amour, mais comme de coup de foudre, quoi, quand elle parle de la première manifestation, quand votre personnage parle de ça.
Oui, parce que c'est vrai ce que vous avez dit sur la joie du collectif qui fait défaut à beaucoup de monde dans nos sociétés supra-individualistes, quoi. Et de la joie et d'une pulsion de vie, en fait, et d'un sens donner, aller vers l'autre, découvrir aussi le pouvoir de tout ça.
Et elle regarde la manifestation comme si c'était une merveille du monde, en fait.
Ouais,
c'est quelque chose de très, très, très beau.
Mais plus... C'était juste ce que disait Thomas, c'est-à-dire que oui, un éveil intellectuel, mais vraiment... Mais physique, j'aimais bien ça aussi. Et c'est vrai que grâce à Thomas, j'ai rencontré plein de femmes qui ont participé au mouvement. Et quand on est acteur, c'est une manière de s'approcher de l'autre, mais pas sur une dimension analytique ou intellectuelle, mais physique. Elle me parlait, en fait, de ce que c'était que ressentir la manifestation, ressentir le collectif, la joie, ce que c'était que la peur, ce que c'était que l'absence de peur, et une autre chose que j'avais pas envisagée de cette manière-là avant, qui est l'adrénaline. Mmh. C'est-à-dire presque la drogue, presque, ça représentait aussi.
Oui, parce que c'est pas uniquement une manifestation, c'est un engagement sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui sont pris régulièrement, et puis on se projette et on voit ça sur la durée. C'est pas une manif qui a lieu tel jour à telle heure
l'heure et le lendemain, on voit.
Non, mais
on
débrief, en fait, tout ce qu'on dit là, c'est un mouvement. Dont on a parlé, c'est aussi de donner du sens, en fait. Mm-hmm. Tout d'un coup, on comprend le sens. Sinon, parfois, l'existence avec ces petites choses normées, allez, on est devenu, on a la maison, il faut payer, il faut travailler, les trucs, les enfants. Waouh, on va où? C'est quoi le principe, en fait, de cette
alors,
existence
il que,
brève?
Il fallait que ce couple soit un tout petit peu bouleversé par cet engagement. Donc, il fallait que lui soit un peu chef d'entreprise, qu'il ait une responsabilité, qu'il voit d'un autre prisme, entre guillemets, cette manifestation. Pourtant, oui. Il est concerné. C'est la hausse.
Non, et bien sûr, il est concerné. Puis, il est chef d'entreprise, mais c'est un petit patron. Donc, d'une certaine manière, il conduit aussi son. Il a trois camions. Il conduit aussi. Il est chauffeur routier. Et il a une aspiration à la réussite. Mais quand on parlait un petit peu de ce qui peut diviser un couple tout à l'heure, la division, c'est pas une division idéologique, genre, il y en a un qui est de gauche et l'autre qui est de droite. C'est un peu dans le rapport au monde, dans le rapport à l'engagement. C'est-à-dire que elle se dit, voilà, et à l'avenir, tous les deux, ils pensent à l'avenir, ils pensent à eux, ils pensent à leurs enfants. Et elle se dit, il faut rejoindre l'action collective pour essayer de rendre le monde un peu moins injuste. Mmh. Et lui, il se dit, non, c'est trop compliqué. La seule solution, c'est d'essayer de tracer sa route. Lui, il croit dans son mérite, dans la réussite de sa petite entreprise.
Ouais, se retrouve un peu seul, même dans sa petite entreprise, à tel point qu'il va faire les 3-8 pratiquement pour pouvoir tenir à bout de bras sa boîte. Et à l'inverse, elle est portée par le groupe, par le collectif. C'est-à-dire que lui s'isole et elle s'entoure.
Oui, exactement. Exactement.
Non, mais peut-être qu'elle se sent plus forte et elle se découvre peut-être comme elle ne l'était pas avant, parce qu'elle travaille en usine et elle est plutôt respectueuse des horaires, et même elle voit qu'elle se fait un tout petit peu.
Elle est déjà
bâchée.
Un peu militante.
Super aussi. Il y a comme ça parfois aussi des gens qui se disent qu'il y a un âge où les choses sont fixes et ne bougent plus, quoi. D'ailleurs, quand on a parlé de la manifestation, on a posé la question sur votre première manifestation, c'est quoi le début? Et il y a un âge où on serait, bon, on vieillit, le confort, on ferme un peu la porte de ça. Et cette possibilité-là, en fait, d'ouvrir une porte qui ouvre une autre façon de voir et de faire les choses et tout ça, c'est merveilleux, en fait, de se dire qu'il n'y a pas un âge pour cette chose-là. Après, là, une sorte de... On partage ça, d'ailleurs, dès que moi, je me lance dans une explication d'une idée politique que j'aurais, j'ai l'impression que personne ne comprend jamais rien à ce que je raconte. Et là, moi, je suis quand même un peu. Et elle a un peu ça aussi. Enfin, je ne sais pas, quand elle parle à son mari, quand elle parle à ses enfants, ils sont là, puisque, bon, il y a des mots un peu valises, comme le système. Alors que moi, je crois très fort que c'est le système qui construit des hommes. Mais non, on peut. Alors, ils sont là, mais avec quoi tu viens, le système? Et puis, il y a cette idée aussi.
Et d'ailleurs, généralement, ceux qui luttent contre le système se servent du système pour lutter contre le système.
Oui.
C'est le mot est facile de dire il y en a marre du système, mais on se sert quand même des aides.
Ça dépend ce qu'on met dedans, quoi.
Des aides européennes, on se sert.
Il lui dit des choses qu'on peut.
Des emplois fictifs, tout ça.
Il lui dit oui, mais enfin, à quoi ça sert? C'est pas sur les ronds-points que vous allez changer un truc, quoi.
Et pourtant.
Décision qui se passe à un autre endroit. C'est quoi cet idéalisme un peu niais, quoi?
Et pourtant, elle a l'air plutôt performante quand elle est au sein du groupe des Gilets jaunes. Quand elle commence à prendre la parole, elle est écoutée.
Ouais.
Elle est organisée. Elle devient quelqu'un d'autre, en fait.
Et je pense que c'est aussi représentatif de quelque chose que Thomas regarde et qui était peu regardé, ce que sont les femmes à l'intérieur de ce mouvement-là.
Elles
étaient quel est le prix
très...
à payer pour les femmes qui est plus lourd que pour les hommes?
Elles étaient très présentes. Justement, globalement, dans le mouvement des Gilets jaunes, Thomas?
Oui, on dit que, qu'elle représentait à peu près peut-être 45% du mouvement, mais il y avait aussi quelque chose de... En tout cas, nous, dans les gens que j'ai rencontrés pour écrire ce film, il y avait beaucoup de femmes qui avaient découvert un peu, comme le personnage de Virginie, l'engagement politique à travers le mouvement des Gilets jaunes. C'est sûr qu'en dehors des villes, elles sont aussi plus... elles sont plus soumises à la précarité, à des temps partiels subis, aussi à cette injustice salariale, quoi.
Et puis de la charge mentale aussi, de devoir tout gérer. Ouais.
Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez rare, souvent dans les mouvements où il y a des blocages, où il y a c'est souvent assez masculin, mais là, dans ces mouvements d'occupation comme les Gilets jaunes, avec ces ronds-points, avec ces lieux qu'on occupe, les femmes étaient très très présentes et en tout cas très moteurs dans les différents ronds-points où j'ai rencontré des Gilets jaunes.
Et c'était aussi l'envie donc de filmer une première crise dans un couple qui est ensemble depuis une vingtaine d'années et qui pour lequel tout semble aller en fait.
Oui, c'est un couple qui s'aime très fort et c'était aussi l'idée de raconter une histoire. Souvent les histoires d'amour c'est la rencontre au cinéma, voilà, là c'est un film d'engagement quoi, le plus bel engagement, peut-être la plus belle aventure, c'est de faire durer une histoire d'amour et pour la faire durer faut être capable de traverser des changements quoi et là le personnage de Virginie en vit un et le couple essaye de s'adapter et de survivre à ça quoi.
Ouais, et puis il y a une sorte de entre guillemets suspense, je sais pas si le mot est approprié mais en tout cas
c'est approprié, une
tension pour savoir comment ils vont s'en sortir ou est-ce que ça va clasher justement, jusqu'où elle va aller dans son engagement, est-ce que il y a un choix à faire à un moment entre tenir le couple, la famille et ne pas briser ce que l'on a mis 20 ans à construire, ou se dire il faut que je me sacrifie pour le bien commun et pour le collectif. C'est cette tension-là.
Non, il y a cette tension-là chez les deux personnages, et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de à quel point lui il est dans un chemin, dans un tunnel et il s'épuise, mais elle aussi, pour elle aussi, le combat militant, et on le sait avec les Gilets jaunes, c'est monté très vite, mais c'est devenu aussi très vite dur.
On va continuer d'en parler. Ce film sort ce mercredi 5 au cinéma. Ça s'appelle Les Braises, avec Arié Forsalter, Mama Prasinos, Justine Lacroix et Lou Pinard aux côtés de Virginie Fiera. Tout ça devant la caméra de Thomas Krutoff. On en parle jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici Bruno Pekki.
Eh oui.
Il va s'habiller, le petit.
Ouais. Alors, vous n'auriez pas fait un film sur les Gilets jaunes comme ça, vous?
Eh non, salope patron! Désolé de ne pas avoir donné de préavis, mais ce que je vais pas faire comme ça, c'est cette chronique. Voilà. On reçoit un film qui parle des Gilets jaunes, et vous savez quoi? Je manifeste aujourd'hui et je fais grève. Non! Pas de chronique! Et si t'as pas compris, je te nie! Pardon, désolé, c'est la seule rime que m'a vendu Oldolaf. Voilà. Il m'avait proposé aussi Pervers Lubrique, mais je voyais pas le rapport avec toi. Bref. Non, mais vraiment, moi aujourd'hui, je bosse pas. Voilà, je préviens. D'autant plus que j'ai mis tout mon cachet dans la location de ce gilet jaune. Ah, c'est un vrai business maintenant. Hein. Depuis la fin du mouvement, vous croyez qu'ils vivent comment, les manifestants, quoi? Ils ont pas été écoutés, donc ils bookent ces fins de mois comme ils peuvent. Hein. Ce gilet jaune, j'ai joué à JB, le rédacteur en chef de l'émission. Voilà, il en avait déjà loué à deux personnes qui sont allées au Louvre il y a quelques jours. En tout cas, moi, je refuse de travailler aujourd'hui, quoi. Franchement, vous demandez à un Suisse de faire une chronique sur un film dont les acteurs principaux sont belges, qui parle d'un mouvement social français. À ce niveau-là, c'est de l'appropriation culturelle, quoi. Nous, en Suisse, ça manifeste pas autant. Hein. Nous, nos nuits d'émeute, elles se terminent à 22h, parce que faut pas déranger les voisins, quoi. D'ailleurs, on n'appelle pas ça nuit d'émeute, on est apéro d'émeute. Voilà. Chez nous, nuit debout, ça aurait été après-midi dans le sofa, quoi. Bleu contour, on aurait plutôt fait, allez, ça ira pour cette fois, allez-y, passez. En plus, je suis déçu, mais quand je suis arrivé ce matin, on m'a dit que le sujet de l'émission, c'était les braises. Je pensais qu'on allait faire un barbecue ambiance manif au rond-point, j'ai ramené ma saucisse, quoi. C'est pratique, un JB, il les loue avec le gilet jaune, c'est tout un package nostalgie 2019. Mais non, à la place, vous venez prendre voir un film sur la lutte sociale, y a rien de marrant là-dedans, quoi. Je veux dire, le seul truc le plus fou du tournage, c'est que Arié Forsalter a appris à conduire un poids lourd.
C'est vrai.
C'est glamour le cinéma français, quoi. Bon, c'est pratique quand même, hein, au cas où les rôles arrêtent de venir, il pourra continuer à bosser sur les tournages en déplaçant les décors et le matos. Pour ça qu'il était pas dispo ce matin, hein. En ce moment, il est en train de livrer du ciment à Francfort. Pardon, il y a le rédac chef qui me parle dans le casque. Je dois vous demander si par hasard Arié n'a pas appris à conduire un monte-charge. Voilà, car apparemment il a besoin de quelqu'un pour aller au musée d'Orsay dimanche prochain. Enfin bref, vous lui donnerez son contact, quoi. En vrai, je suis très content qu'on vous reçoive ici aujourd'hui, car moi je suis un ardent défenseur des causes sociales. Et oui, surprise, un Suisse de gauche. Ouais. J'aurais pas quitté les salaires de Genève pour le SMIC parisien si j'aimais la thune, hein. On l'a dit, mais je trouve ça important d'annoncer clairement ses positions politiques parce que après il peut y avoir des malentendus, surtout dans les relations amoureuses, comme dans votre film. Les personnages sont ensemble depuis longtemps, tu te dis qu'ils devraient se connaître niveau engagement politique, et pas forcément. Parce que c'est rare qu'au début d'une relation, tu parles de comment se battre pour réindexer les retraites sur l'inflation. Quoi. Tout simplement parce que c'est plus dur de discuter pyramide des âges et thésaurisation de l'épargne quand t'es à quatre pattes avec une boule dans la bouche. Oh. Allez, non, je suis désolé, mais je vous rappelle que je suis sur le créneau de Lisa, donc il faut que je garde un peu de son univers. C'est contractuel. Ah, mais c'est pour ça qu'en Suisse, on est appelé à voter tous les 3 mois. On est souvent pris comme un exemple de démocratie. En vérité, la démocratie, on s'en tape. C'est juste pour être sûr d'être en couple avec la bonne personne. C'est un peu notre version à nous des amours. Voilà. Parce que si t'as une personne du couple qui vote extrême gauche et l'autre qui vote pipe au miel, c'est bien de le savoir pour anticiper la Suisse, quoi. La suite. Après, j'ai vu qu'un seul épisode des amours, donc j'y comprends rien,
maintenant. Visiblement.
Ok, je vais être honnête avec vous. Les dernières blagues, là, que je viens de faire, je les avais déjà faites à ce micro, il y a plus d'un an. Mais depuis, j'ai fait 63 chroniques, voilà, autant que Virginie Efira a fait des films l'année de son César. Mais vous, votre travail, il a été récompensé et célébré, alors que moi, il n'y a qu'à voir leur réaction, ils ne s'en souviennent même pas. Quoi. Donc j'en profite et je fais de la récup, quoi. C'est mon côté écolo, et de toute façon, je vous avais prévenu, aujourd'hui, je fais grève.
Wow. Merci. Bonne journée.
Bruno.
Et Bruno Pekit est sur scène ce samedi le 8 novembre.
Allez, prononce-moi ça, Leïla.
Voilà, parce que Iris, mais Azimut à Estavayer-le-Lac.
Estavayer-le-Lac.
Estavayer-le-Lac, en Suisse.
C'est en Suisse, c'est au bord du lac de Neuchâtel.
Voilà.
Joli. Les scènes que vous avez tournées, celles qui reconstituent, entre guillemets, le gilet jaune, on imagine que tout de suite, il fallait trouver des ronds-points, il fallait y mettre une ambiance. Alors, c'est vrai, un peu barbuck, un peu on se débrouille, mais quand même de manifestations avec des blocages de route. Elle est plutôt gentille dans un premier temps. Elle est plutôt, bah, je vous en prie, allez-y, passez, je vous embête pas. On n'est pas dans la violence ou dans la tension. C'est le parti pris du film. C'est ce que vous avez retenu des rencontres que vous avez eues avec les anciens.
Je sais pas si c'est un parti pris. C'est un mouvement qui, quand il a commencé, avait quelque chose de très très bon enfant, hein, qui était assez accueillant. Évidemment, quand tu bloques des endroits, il y a des gens qui étaient ennuyés par ça, mais il y avait un côté assez partageur, assez de proximité, quoi, et un lien qui se renouait. Voilà, oui, on a essayé de trouver un peu ces lieux-là, et c'était.
Et ça fait monter la tension, d'ailleurs, jusqu'aux manifs à Paris et jusqu'aux agressions subies. On voit, j'allais dire, c'est un clin d'œil, c'est peut-être pas le meilleur jeu de mots, mais en tout cas, on voit une personne.
C'est terrible, quand même.
Blessée à l'œil. Non, mais c'est une ref. D'ailleurs, je sais même pas si vous avez demandé.
Les LBD.
À celui qui avait été blessé à l'œil de faire un caméo dans le film. Vous lui avez demandé directement?
Non, pas du tout.
Là,
c'était un acteur. Ouais,
il y en a plusieurs.
Il y en a un qu'on a beaucoup vu sur les plateaux, en tout cas, qui a été borgné par
Jérôme Rodriguez.
Voilà.
Ouais, c'est Jérôme intéressant. Rodriguez. Je me souviens qu'on a tourné cette scène justement où il y a l'acteur qui arrive et que avec
sa blessure à l'œil.
Parce que on avait des gilets jaunes sur le plateau qui faisaient de la figuration, des vrais, et qui jouaient aussi dans le groupe dont je suis proche. J'avais des vrais qui me disaient, mais en fait, si c'est ce gars-là, nous on le reconnaît, on connaît son nom, même s'il vient d'un autre département et tout ça. On a un trombinoscope, on sait exactement qui a eu ça. Oui. Et donc, je ne dis pas que c'est comme une star ou je ne sais pas quoi, c'est pas très juste non plus.
Non, c'est une victime, chacun reconnaît.
Il arrive, on sait que c'est telle ou telle personne.
Une victime ou un peu un martyr sans les flonflons et tout ça, mais effectivement, ouais.
Donc vous êtes documenté sur la manifestation des Gilets jaunes, la manière dont le mouvement s'était fait, ou vous l'avez tellement suivi de près jour après jour?
Oui, non, c'est...
Vous avez écrit le scénar pendant...
Non, on a écrit le scénario avec mon compère JB Delafont à partir de quelques années après, donc début 2022, à partir de rencontres de Gilets jaunes qu'on a fait au début en Bretagne et dans d'autres endroits en France, et puis après c'est une discussion un peu, un rapport avec l'arrêté. Évidemment, il y a des images d'archives dont on peut s'inspirer, mais vraiment le moteur pour écrire un film comme ça, c'est quand même le témoignage. Et évidemment, le fait d'avoir beaucoup de gilets jaunes qui participaient au tournage, voilà, ça nous permettait de rajouter encore un peu un grain de réalité, de vie, de précision dans ce qu'on essayait de décrire, quoi. Et on essayait de décrire parfois des choses comme ces manifestations un petit peu particulières, celles qui expriment de la joie, et puis celles qui sont plus de l'ordre du chaos, de la colère ou de la peur. Et puis les actions et la vie un peu d'un rond-point, quoi, qui est quelque chose aussi qu'on a probablement peu vu à travers les médias durant la crise des Gilets jaunes, mais voilà, qui raconte aussi l'endurance de ce mouvement, le lien entre les gens, puis un petit peu ce laboratoire de, je sais pas, d'échange et de partage et d'action politique, quoi, militante.
Et puis qui décide? Parce que ce qui a été marquant, c'est l'absence, entre guillemets, de leader. De temps en temps, certains prenaient la parole ou étaient suivis par des médias, mais il n'y avait pas, le mouvement n'avait pas de leader.
Tout à fait, et c'est une des beautés du mouvement. Peut-être que ça leur a ça a empêché peut-être le mouvement d'atteindre une plus grande de meilleurs résultats, j'en sais rien. En tout cas, ça permettait,
ou l'inverse, il a tenu aussi sur la durée, parce que
c'est possible,
il était plus profond, comme c'est une lame de fond, c'est pas
c'est ça aussi qui m'intéressait avec le personnage que joue Virginie. C'est que voilà, c'est un mouvement très démocratique, tout le monde a le droit de s'exprimer, donc ceux qui découvrent la politique, ils ont aussi le droit de s'exprimer. L'échange est très rapide, très fort, et en même temps, voilà, on essayait de rendre compte aussi parfois de cette énergie collective un peu chaotique, quoi, du bordel. Et c'est vrai qu'on tournait un petit peu les scènes de groupe comme ça, quoi. Tout le monde avait un peu le droit de parler, quoi. Et parfois Virginie devait se battre aussi, tout en étant l'actrice principale, pour pouvoir loger sa réplique, quoi. Elle devait se battre pour l'attention, quoi.
Pour prendre la place.
prendre la place dans le débat, vous avez beaucoup parlé avec ces figurants.
C'est super, parce qu'un film, c'est évidemment ce qui se passe entre action et coupé, mais c'est beaucoup ce qui se passe en dehors. Et moi, je crois très fort qu'en fait, il y a un dialogue entre ce qui n'est pas filmé et ce qui est filmé.
La table régie.
Ça justement, là, c'est l'endroit à éviter, si tu veux pas, tu vois, genre l'amour du balisto, la teutura.
Il faut être raccord dans le film au début à la fin, quoi.
Oui, je pense vraiment en fait les liens. Parce que je crois qu'en fait dans le film, il y a évidemment ce qu'on filme, mais la manière dont ça se passe sur un plateau.
La manière dont
avant,
on construit le personnage.
Comment on rentre à l'intérieur d'une scène, ça se joue aussi sur ce qui n'est pas filmé.
Est-ce que par exemple en échangeant avec des participantes à ce mouvement, vous leur avez piqué, vampirisé deux, trois trucs dans le comportement, dans la manière de parler, dans la manière de se tenir. C'est-à-dire que comment on travaille un personnage.
Ça, pas vraiment, parce que je ne pouvais pas essentialiser une manifestante, une militante ou une gilet jaune. Donc c'est donc ça, une gilet jaune, elle parle comme cela, en tenant sa main en l'air.
Ça fait documentaire animalier.
Oui, c'est ça. en revanche. Plusieurs choses. Ce qui était important, c'est les dispositions avec lesquelles tu arrives sur un tournage. Moi, j'ai pu à un moment me dire, est-ce que j'ai le droit de faire ça, tu vois, par rapport à
comment on s'autorise,
le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, machin, et tout ça. Et le fait qu'elle
est-ce que j'ai le droit à dire, moi, star de cinéma, est-ce que j'ai le droit.
Je me suis pas dit, moi, star de cinéma.
Non, mais. Est-ce que quand vous dites, est-ce que j'ai le droit, sous-entendu.
Oui. C'est normal de se poser la question quand même. Bon, parce qu'il y a une valeur symbolique très forte, quoi. Et donc, le fait d'avoir un regard légitimement à cet endroit-là, le fait de me dire que le projet Thomas est digne, qu'il y ait une représentation dans un film populaire, même si c'est plus qu'une représentation en toile de fond, mais je veux dire, le film n'est pas un documentaire sur les gilets jaunes, c'est l'influence du politique dans l'intime et tout ça. Mais bon, voilà.
De couple de 20 ans qui fait des travaux à la maison, qui a des enfants, enfin, il y a une autre vie, entre guillemets, en parallèle. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est de voir comment les deux sont gérés.
Bien sûr.
Donc, passer cette légitimité où on se dit on peut y aller.
Et ça, je pense que ça, les personnes qui étaient là, qui étaient présentes et qui validaient, ça m'a beaucoup aidé. Et après, oui, les rencontres, c'est vraiment super parce que ça remplit de quelque chose qu'on a envie de porter, on trouve un sens aussi.
L'évolution du couple et puis ce repas de famille aussi, on va en parler tout à l'heure, une espèce de climax au sein de la famille où on se raconte, on se parle, on se pose et on s'observe peut-être un tout petit peu, voire on se juge. On en parle tout à l'heure. Les Braises, un titre qui est aussi bien d'ailleurs va avec la construction qu'avec la destruction. Braises, est-ce que c'est la naissance du feu ou est-ce que au contraire ce sont
Est-ce que ça va s'éteindre ou est-ce que ça va brûler plus fort effectivement.
Le film sort ce mercredi au cinéma. Voici tout de suite Camille Lavabre.
Coucou tout le monde. Ce week-end, je buvais un verre avec un ami. Avec un ami. On était en pleine conversation. Quand soudain, il détourne le regard vers une fille sublime qui passe à côté de notre table. Mmh. Alors, oui, je sais, deux filles sublimes au même endroit, mais c'est quoi? C'est un resto ou l'équipe de la bande originale? Non, mais Emma, t'inquiète, toi aussi, t'as une très belle présence. Non. Et tu crois pas tout ce qu'on écrit sur toi dans le groupe WhatsApp, que tu ressembles pas du tout à Nathalie Portman qui aura abandonné après Léon. C'est pas vrai.
Okay.
Pardon. Alors, non, je sais pas. De te rabaisser parce qu'on a 10 ans d'écart et que toi t'es passé direct en quotidienne. Non, je vois pas le rapport, t'inquiète, moi aussi je suis jeune et je sais pas dire non. Ça va ou quoi la team? Bref, on peut revenir à mon histoire de minutes?
Oui.
Merci. Donc, je parlais à mon pote, mais il était complètement ailleurs, quoi. Je vous jure, c'est dingue à quel point les mecs peuvent être facilement distraits quand leur regard croise quelqu'un qui les intéresse tout particulièrement et qui, sinon, Thomas, on m'a dit qu'en ce moment vous cherchez une actrice pour votre. Enfin, pour le prochain film, pour tourner l'année prochaine. Et comme moi, globalement, je suis dispo entre début janvier et fin décembre, je me disais qu'on pouvait peut-être prendre un café après l'émission, surtout que mon agent connaît très bien le vôtre, et donc c'est pour ça, les mecs, qu'il faut vraiment que vous appreniez à rester concentrés. Donc, plutôt que de continuer à parler dans le vide, je dis à mon pote, mais va lui parler. Et là, il me dit, non, je sais pas faire, je suis timide. Du coup, je me lève et je m'avance vers la fille en question, toujours aussi sublime, longs cheveux bouclés, yeux clairs, et waouh, quel beau miroir, salut, bref. Et je lui dis, excuse-moi de te déranger, en fait, mon ami a flashé sur toi, mais il est super timide, il ose pas t'aborder, et j'ai pas le temps de terminer ma phrase que la meuf me coupe direct. Alors je t'arrête tout de suite, c'est très gentil, mais ça va pas être possible parce qu'en ce moment je suis en retraite sentimentale.
Oh, wow.
Et moi j'entends ça, et là, bam, révélation, ça y est, quelqu'un a enfin réussi à mettre des mots sur ma situation personnelle. Je fais une retraite sentimentale. Voilà, c'est ça. Je demande quand même à ChatGPT s'il peut me donner une définition plus précise pour être sûr. Ce à quoi il me répond, bien sûr, voulez-vous pour cela que j'arrête de rechercher comment écrire une bonne chronique sur France Inter? Et là, il m'explique qu'il s'agit de se retirer temporairement du jeu amoureux. Eh bien, c'est exactement ça. Je me retire de ce jeu fatigant. C'est sûrement ce qui se passe quand on fait un burn-out sentimental, quand la machine est cassée, qu'il n'y a plus d'émotion, plus rien. En plus, j'ai l'impression que mon algorithme amoureux, il m'a déjà tout proposé et moi j'ai déjà tout scrollé. C'est bon. J'ai connu l'amour passionnel, l'amour adolescent, l'amour toxique. J'ai connu des acteurs, des surfeurs, des auteurs, des humoristes, des alcooliques, des drogués, des névrosés, des jeunes, des vieux. Et tout ça, c'était juste avec Bruno et Daniel. Hein. Et j'ai bien conscience, alors oui, j'ai bien conscience que ma chronique de ce matin n'est pas hyper feel good, Charlotte Cardin. Ta main sur ma taille, taxi super sexy. Et vraiment, j'aurais voulu vous raconter autre chose. Et d'ailleurs, j'aurais pu. Je vous explique. La semaine dernière, je prends le train et là, je tombe nez à nez avec un homme, comment dire, beau. Très, très beau. Je vous jure, un grand brun avec des yeux rêveurs, mais une carrure rassurante. Un mélange entre François Civil et Gilles Lelouch. François Silouche, tout à fait. Et je passe l'entièreté du trajet, soit 3h25, face à sa beauté. Et en temps normal, je l'aurais abordé direct, en mode hey, « Salut mon mignon, ça dit de partager un peu plus qu'un accoudoir
wow. ?»
Ensemble dans le Ouigo, c'est vraiment très 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 chaud. Mais là, non, même pas. Je passe l'entièreté du trajet à constater sa beauté, mais n'en fais rien. Même pas une ébauche d'embryon de début d'eye contact. Je descends du train. La journée se passe et le soir, je découvre un DM sur Instagram. « Salut, j'étais assis en face de toi dans le train. Oh. » Voilà, j'aime bien tes chroniques qui sont quand même vachement mieux écrites que celles d'Emma. J'ai pas osé te le dire, mais j'aurais aimé discuter avec toi, bla bla bla. Bon, beau storytelling, je vous jure, c'est vrai. Sur le papier, belle anecdote et super potentiel de chronique en vue. De type, du coup, on est allé boire un verre, on a partagé un autre type d'accoudoir, on part à Deauville ce week-end et la semaine prochaine, je rencontre sa sœur. Mais non, rien de tout ça, car je n'ai rien fait de cette info. Juste l'ego reboosté, je réponds poliment à ce DM, le gars est toujours aussi beau sur ses réseaux, en plus d'avoir de l'humour et de l'esprit, mais chez moi, il ne se passe rien parce que la machine est cassée. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que ce burn-out générationnel, ressenti par tant de gens, raconté dans tant de podcasts et largement amplifié par les réseaux, est à la fois parfaitement naturel et tout à fait temporaire. Juste, parfois, on a le cœur en mode avion ou en mode ne pas déranger. Et c'est pas grave, à un moment, il finit toujours par se rallumer. Comme dirait Emma, il suffit d'un bon coup de pin. Wow. Je t'aime, je suis fan d'Emma
Bouguer. Oui, tu es la gentillesse incarnée Camille Lavabre. On te retrouve dans French Lover sur Netflix.
Oui.
On te retrouve aussi dans McWalter.
Oui, merci.
Film Gaëlle. Qui sera culte. Les gens ne savent pas encore, mais dans quelques mois, oui. Ça sera un film culte.
L'humeur donc de Camille Lavabre à l'instant. On va parler avec Jérémy Pelletier, co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès, du mouvement des Gilets jaunes, de ce qu'il en reste et de la manière dont il s'est... Alors, éteint, suspendu, est-ce que ça peut redémarrer du jour au lendemain? C'est intéressant, on l'échangera avec lui. Puis la musique du film.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois, on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit. Il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit, on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise.
Et puis il y a des phrases, pardon, mais dans le film, hyper importantes. Moi, quand j'entends ce morceau-là, j'entends une réplique aussi. Je sais plus qui l'a dit dans le film, mais qui, moi, me semble tellement résumer l'essence des gilets jaunes. C'est dire, on n'est pas là pour attendre des aides sociales. On veut vivre avec l'argent qu'on gagne. Et en fait, je trouve que c'est un message qui était quand même un message essentiel pendant la crise des Gilets jaunes et qui reste pas.
Et qui est toujours d'actualité.
Alors pourtant, c'est pourtant ça. Et on pourrait décaler ce message à plein d'autres choses. Moi, quand je vois plein d'actions philanthropes, des dîners de charité, je me dis c'est super. Et en même temps, pourquoi, si on redistribue bien les richesses, on n'aura pas besoin de donner et de faire don aux autres? Et je trouve que dans le film, ça, c'est. Moi, ça m'a beaucoup ému.
Ouais. Non, c'est cette. Vivre dignement de notre travail, c'est les principales revendications des Gilets jaunes. Quoi.
Le choix de la musique est d'avoir des cordes, essentiellement. C'est pour le côté romantique ou pour la tension aussi? Parce que Psychose, il y avait des cordes. Et, et souvent dans les... Non, mais c'est vrai.
Non, bien sûr, probablement il y avait.
Le choix de cet instrument est particulier.
Oui, c'est Grégoire Auger qui a composé la musique. Après, il y avait quelque chose sans... probablement un sentiment, c'est pas très réfléchi la musique, c'est un petit peu une interprétation qu'il va faire, on discute beaucoup mais en même temps tout d'un coup des choses s'imposent et peut-être qu'il y a une dimension un petit peu romantique ou romanesque qui s'est imposée à travers la musique.
Et quoi. La tension dont on parlait tout à l'heure.
Et ouais, la tension de densifier un peu. Voilà, ouais. Exactement. Ouais.
Le film sort ce mercredi, la musique justement dans vos vies, Virginie Efira, vous maîtrisez la musique après l'avoir beaucoup présentée, vous écoutiez en 98-99. No Diggity. À quoi pensez-vous quand vous l'écoutez?
Non, truc de ringard, quoi, ma jeunesse. Bah non. Réduit au loin là-bas. Ah, vous avez toujours un truc.
Je sais pas. Non, mais vous l'écoutez, vous avez envie de danser ou de chanter?
Ni l'un ni l'autre. Enfin, si, ou les deux, ça fait. Je sais pas, ça aussi une fusion de vie, quoi. Le collectif.
C'est ça?
Ouais.
Il se passait quoi dans la vie de Virginie Efira? On est en 98-99, là.
Elle aurait pu devenir Virginie Winter.
Ça, c'est pas faux, ça, mon Dieu.
Racontez-moi.
Vous voyez, moi aussi, je me suis battue.
Ouais,
j'ai gagné des luttes importantes.
Vous avez failli vous marier avec Ophélie Winter.
Attends, donc, moi, j'ai fait des. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait des études de théâtre, mais des études de théâtre avortées. Donc, je rentre au conservatoire, je pars du conservatoire, je vais dans une troupe un peu obscure. Donc, bref, mon avenir est très incertain. Je travaille en boîte, je suis mystique. Enfin, rien ne va. Mon père est un peu.
Ok.
Waouh. Oui, compliqué. Et du coup, alors que je suis en train de travailler en discothèque, un gars qui vient pour me proposer un truc d'animatrice en Belgique. Je vois cette émission, je me dis, ah non, cette émission de musique où t'avais deux filles stéros.
Megamix.
Megamix, exactement. Donc là, je rencontre le producteur, que je ne vais pas mentionner son nom, mais je le recommande à personne. Bref.
C'est mal comporté?
Oui.
Ouais. Bah, pourquoi ne pas l'outer
une autre fois. Et
un autre jour.
Et bref, et donc là aussi, c'est un autre fait. Il me dit, ah ouais, je me souviens, donc j'animais cette émission avec une fille très chouette qui s'appelait Lydia Gervasi. Et il me dit que ce nom est fait un peu étranger, que le mien fait un peu étranger aussi, Efira. Donc ça serait quand même mieux si je m'appelais Virginie Winter, comme ça on se demanderait si je suis la petite sœur de.
Wow.
Même si mon avenir était incertain, qu'il fallait que je m'accroche à ce boulot-là, je me dis c'est pas possible, quoi. Virginie Winter, là vraiment, je suis pas partie vers l'avenir glorieux, quoi. On est loin, enfin on va pas finir en, tu vois, bon, mais ça quand même c'est pas possible. Et donc j'ai réussi à garder le Efira, quoi.
Très bien.
Mon vrai nom.
Il faut se battre. Vous avez raison.
Oui.
Moi j'ai failli m'appeler Christophe parce que
c'est pas vrai.
Ouais, Nagui ça faisait trop arabe pour la radio, donc
oui.
Il fallait enlever Nagui.
Christophe c'est bien. Hein.
On m'a dit pourquoi pas Christophe. Allez,
c'est tout ou rien, quoi.
Nagui, gardez-le en nom de famille.
Christophe Nagui.
Mais voilà, mais mettez un prénom un peu plus français.
Jean-François Nagui, ok.
Jean-Charles. En 98, Thomas, vous écoutiez.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains.
Et on est dans le marketing, Leïla.
Oui, on n'est pas dans Mistequila, au Mirano, oui, non, pas du tout. On est à Paris Dauphine.
Ouais, ouais, je faisais des études de gestion, spécialisation marketing, ouais.
Et ça avait l'air d'être chouette ou pas?
Je sais pas.
J'ai
gagné
la réponse un peu.
La vie était pas.
Oui.
Était assez chouette. Après, les études n'étaient pas passionnantes. Oui. Et probablement, je me cherchais un peu. Et ouais, ouais. Oui. Et tout cet album de Bachung, il me faisait beaucoup rêver, quoi. Mmh. Ouais. Parce qu'il t'envoie un peu n'importe où. Enfin, chaque chanson, c'est un peu un film. Ouais, ouais. Non, j'étais peut-être un peu perdu, mais...
2013, Virginie Efira, vous écoutiez...
Ah oui, non. Non, mais c'est pour ça que vous avez dit, je suis venue plusieurs fois dans l'émission, il faut se renouveler, vous posez toujours les mêmes questions, là, sur la musique et tout. Du coup, 2013, c'est parce que...
Vous savez, la même année, on peut écouter deux musiques différentes. Hein.
C'est pas faux, ça. Non, mais vous avez mis 2013 et vous avez mis à côté 20 ans d'écart.
Oui, le film.
20 ans d'écart, le film. Et du coup, c'était la musique de 20 ans d'écart.
Ok.
Ouais. Voilà,
chercher ça trop loin.
Si on peut faciliter votre travail, ça
c'est bizarre. Ouais. 20 ans d'écart, en effet, comédie romantique. Inattendu, finalement. On est en 2013 et on met en scène un homme, une femme, et c'est l'homme qui est le plus jeune.
Oui, alors ce qui est pas mal, c'est que par exemple, là, je retourne avec Pierre Niney en ce moment. Là, oui.
après votre émission, j'y vais et c'est plus du tout la question, en tout cas.
Ah, il est devenu plus vieux.
Comment ?
Il est devenu
beaucoup plus vieux. Ouais, un sacré coup.
Alors que toi, non.
Donc on va être fini.
Rajeuni.
Plus vert bientôt. Non, je me souviens, cette musique, c'était... Bon, attends, je sais pas si c'est intéressant, je vais essayer de dire ça vite, parce que bon, on peut pas couper, on est en direct. Non, mais cette musique, c'était une scène où ils venaient me chercher en scooter, et ils mettaient la musique et tout ça. Et c'est rigolo, parfois, l'influence de la vie réelle sur la fiction, quand on réécrit tout ça. Moi, je réécrivais. C'était pas l'histoire du siècle, ça. Mais c'est une histoire qui m'était arrivée, et que je trouvais totalement cinématographique, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui décide de la bande originale de
du
votre
moment.
Vie à, du moment.
Ouais, c'est ça.
Je dis ça doit être dans le film. Il y avait plein de choses comme ça.
Bah voilà, si, c'était bien de le raconter. Les daffins qui étaient dans les oreilles de Thomas à ce moment-là. Enfin, pas uniquement d'ailleurs.
Chic. Tout est chic. Tout est chic.
C'est pas chic là, c'est très original surtout. Hein. Non, vraiment.
Oui, mais c'est un morceau culte.
Un morceau culte, et puis c'est vrai que c'est vraiment le morceau que t'aimes. La première fois que tu l'écoutes, tu l'adores.
Absolument.
Et le monde entier l'adore. Ouais. Et ça a quand même quelque chose de chouette quand t'écoutes c'est formidable qu'on écoute tous des musiques différentes, mais quand t'entends ce morceau dans un supermarché, un peu partout.
Absolument.
Et que tout le monde aime le même morceau à un instant T, et qu'en plus il soit français. Voilà.
Ouais, et puis c'est pas parce que c'est un carton que c'est forcément mauvais, parce que généralement on va très rapidement vers ce raccourci en disant ça marche trop bien, donc c'est commercial, c'est de la soupe. Non, c'est extrêmement efficace.
Ce qui est populaire peut être très beau, absolument. Et c'est rétention à cette époque-là, donc c'est pas du tout la musique.
Pas du tout la musique, c'était mon premier court-métrage qui était un peu un thriller administratif dans un centre de rétention pour.
Un thriller administratif.
Je l'appelais comme ça, pour étranger un peu sans papier, donc ouais, c'était pas du tout l'ambiance de ce court-métrage-là, quoi.
Et pourquoi ce sujet ? Pourquoi tout d'un coup, première œuvre, on dit toujours que ça raconte quelque chose de nous ?
De perso, oui.
Ouais.
Probablement, bah, en tout cas, je savais pas. Sur le moment, je trouvais j'avais eu accès à savoir un petit peu quel était ce combat pour essayer d'empêcher les expulsions et ces femmes qui se battaient, qui venaient en aide un peu juridiquement et un peu essayer d'accompagner les étrangers en situation irrégulière dans ces démarches. Probablement qu'il y avait aussi leur engagement qui m'inspirait, quoi. Ça m'inspire dans mes autres films.
C'est votre moteur.
Ouais, aussi dans le personnage de Virginie, ouais.
Jérémy Pelletier nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Vous êtes co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès et auteur de La fête est finie aux éditions de l'Observatoire. Justement, est-ce que la fête, entre guillemets, si c'était une fête, des Gilets jaunes est finie ? Est-ce que le mouvement est fini ou est-ce qu'il sommeille ?
C'est intéressant d'évoquer en effet la notion de fête et ce qui revient beaucoup d'ailleurs dans votre film, c'est en effet la dimension de sociabilité, la dimension très joyeuse en effet qu'il y avait sur les ronds-points. Il y a évidemment la dimension violente qu'on a tous en tête et que montre aussi très bien le film, mais effectivement au départ et à la genèse en effet du mouvement, il y avait quelque chose de très festif, d'assez joyeux, et je crois que le film d'ailleurs met beaucoup en avant cette dimension-là, la dimension des sociabilités, de la joie du collectif. Est-ce que après toutes ces années, parce que c'était en novembre 2018, la fête est encore là ? Très clairement, le mouvement s'est évidemment émoussé. Ça signifie pas que les revendications, ça signifie pas que, je dirais, la dimension sociale, de ressentiment social en fait, qui était au cœur du mouvement, a disparu. Ça, je pense qu'elle est encore très présente. J'aime oublier qu'au départ, le mouvement se crée chez une partie très spécifique de la population française, les catégories moyennes, les catégories populaires, très dépendantes à la voiture, ce que montre aussi bien le film. Ouais. Il y avait un rapport à l'état.
C'est ça, le point de départ, c'était la limitation de vitesse.
90, 80, ouais.
Alors, il y a plusieurs choses. Clairement, on peut dire que cette révolte, au départ, c'est la révolte, en tout cas, des conducteurs de bagnoles, c'est la révolte des personnes dépendantes à la voiture, parce qu'il y a, en effet, ce projet qui vise à faire passer la vitesse maximale sur les routes secondaires de 90 à 80 km/h. Ça, c'est le point de départ, et vous avez la Fédération des motards en colère, qui d'ailleurs commence à ce moment-là à manifester. Il y a la hausse très importante du coût du contrôle technique, qui est un élément très important aussi dans les éléments qui vont se rajouter, dans les strates qui vont se rajouter. Et il y a évidemment la dimension prix du carburant, l'augmentation du prix du diesel, je dirais, qui met qui finit par enflammer en fait ce mouvement-là. Donc c'est vraiment au départ un objet bagnole, d'où le gilet jaune par ailleurs.
Quand on a vu le mouvement Bloquons tout qui est arrivé en septembre, on a pensé à un retour des gilets jaunes.
Alors, c'était pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même chose parce qu'une nouvelle fois, il y avait la dimension sociologique au sein des Gilets jaunes, je dirais la dimension très populaire, classe moyenne, etc., que n'a pas du tout et que n'avait pas du tout le mouvement Blue Contour. Le mouvement Blue Contour était beaucoup plus politisé. Globalement, quand vous faisiez de l'analyse de la sociologie politique des gens qui se disaient proches du mouvement, à l'initiative du mouvement, vous aviez quand même une grande partie de gens plutôt issus de la gauche radicale. Le champ lexical qu'on retrouvait chez les manifestants, chez les personnes qui étaient présentes, c'est le champ lexical, je dirais, de la France insoumise, d'une partie, en tout cas, très spécifique du spectre politique.
Et paradoxalement aussi l'extrême droite et des sites d'extrême droite qui reprenaient aussi à leur compte le mouvement.
Alors absolument, mais globalement, au départ, en tout cas, la genèse et la récupération du mouvement est plutôt au sein de la gauche radicale. C'était pas du tout le cas des Gilets jaunes. Et une nouvelle fois, ce que montre très bien le film d'ailleurs, parce qu'au départ, le cœur central, le cœur nucléaire des gens qui sont sur les ronds-points, c'est des gens qui sont très en dehors du monde politique, très en dehors des partis, très en dehors des syndicats, très défiant en fait vis-à-vis de toutes ces formes-là très classiques dans la façon de faire de la politique. Donc la dimension très apartisane chez les Gilets jaunes, vous ne la retrouvez pas dans le mouvement Blue Contour. Blue Contour, vous aviez d'abord avant tout des jeunes urbains, beaucoup plus masculins que féminins, ce qui n'était pas du tout le cas d'ailleurs chez les Gilets jaunes. Okay. D'ailleurs, si vous incarnez le personnage principal du film, c'est bien que, en effet, vous aviez chez les Gilets jaunes beaucoup de femmes. Vous aviez à peu près l'équivalent de femmes que d'hommes, mais vous aviez beaucoup de femmes. Une des figures un peu symboliques du mouvement des jeunes, c'était la femme seule avec enfant, parce qu'elle symbolisait, je dirais, tout ce qu'il y a de précarité, de sentiment de déclassement aujourd'hui dans la société française. Et donc, ce qui n'était pas du tout le cas, en effet, chez le mouvement Blue Contour, beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus de jeunes, jeunes urbains, jeunes assez diplômés, ce qui n'était pas du tout le cas, en l'occurrence, pour les Gilets jaunes. Gilets jaunes, vous n'aviez pas, en tout cas, une sociologie de Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 5. Vous étiez plutôt composé, et c'est un mouvement qui était plutôt composé par les gens, je dirais, qui étaient les perdants de la massification scolaire, donc les gens qui n'avaient même pas effectivement le niveau bac, bac plus 1, etc. Donc sociologiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes mouvements, politiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes mouvements, et surtout sur la revendication, on n'est pas du tout sur la même chose. Chez les Gilets jaunes, vous aviez, je dirais, le sentiment pour une partie de la population de ne plus être dans le film. En gros, sentiment de ne plus avoir sa place sur la photo de famille. En gros, le monde vit, la société avance, mais sans nous. Et vous aviez un ministre à l'époque qui avait eu cette phrase dont je me souviens, qui était la France qui fume des clopes et qui roule en diesel, ce n'est pas la France que nous voulons. Bah, en effet, chez les Gilets jaunes, vous aviez la France qui fume des clopes et qui roule en diesel. Et d'ailleurs, dans votre film, vous avez ces deux objets-là, le diesel d'une part et la France qui fume des clopes d'autre part. Voilà, en tout cas, j'en profite pour redire cette dimension-là de ressentiment social chez une partie de la population qui avait le sentiment de ne plus être dans le film, le sentiment de ne plus avoir sa place sur la photo de famille. C'est quelque chose qui demeure, c'est quelque chose qui perdure.
Est-ce que j'allais dire, Jérémy, à vous entendre, ça peut revenir du jour au lendemain?
Bah, ça peut revenir en fonction, effectivement,
tout est là pour, en tout cas.
De quelques politiques publiques qui peuvent être à un moment donné remises. Alors, je pense que les responsables politiques font très attention depuis ce mouvement-là, parce qu'évidemment, ils ont été dépassés par ce mouvement-là. C'est un mouvement qui a dépassé les cadres institutionnels, les cadres très classiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on en a fait beaucoup en amont du mouvement Blue Contour. On avait très peur, en fait, de comment ça allait se passer, de comment ça allait advenir. On sait que les questions liées au pouvoir d'achat restent très au cœur, en fait, de la société française. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'aides régulièrement qui sont proposées, qui sont remises aussi dans le pipe, parce que je pense qu'en effet, il y a une vraie inquiétude quant à la capacité du mouvement de renaître. Alors, la vérité, c'est que les figures un peu classiques, un peu à l'origine de ce mouvement, ont un peu disparu des radars. Certains ont essayé de faire de la politique, ça pas vraiment marché. Certains ont tenté de devenir journalistes, ça a pas vraiment marché. Globalement, les figures, voilà, un peu symboliques, un peu classiques, ont un peu disparu. Effectivement.
Non, quand je dis que ça pourrait revenir, c'est-à-dire que le mouvement, justement, sans être porté par des leaders politiques ou par des mouvements politiques, soit une vague, une lame de fond
de
ceux
qui
sentent qu'ils n'ont pas leur la place sur la photo, ce que vous disiez.
Les sources de la colère des Gilets jaunes, elles sont là de manière beaucoup plus aiguë, 7 ou 8 ans après, quoi.
Ouais, absolument. Mais parce que, enfin,
J'ai dit que c'était la révolte.
Si on rajoute à ça une Assemblée nationale explosée qui ne porte pas non plus forcément les raisons pour lesquelles ils ont été élus, ça devient très compliqué.
Ouais, absolument. Mais
et une présidentielle qui approche. C'était comme ça que ça joue.
Ouais, absolument. C'était la révolte du peuple de l'Emmanuel. Je pense qu'aussi c'était la première révolte des consommateurs. Et ça, je pense que c'est un élément très important et c'est ce qui fait aussi la distinction avec Bloc-en-Tout. Bloc-en-Tout est un mouvement très anti-consommation, très anti-société de consommation. Globalement, c'était plutôt un mouvement qui avait vocation à prendre de la distance vis-à-vis de la société de conso. C'était pas du tout le cas pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, leur revendication, c'était on veut accéder à cette société de conso. Oui. Parce que justement, pour revenir dans le film, l'important, c'est que on soit encore capable d'avoir du pouvoir d'achat. L'expression pouvoir d'achat, très importante, c'est pouvoir acheter. Pourquoi ? Parce que la dimension de consommation, c'est une dimension statutaire. C'est parce que je consomme que je suis capable encore d'avoir une place sur la photo de famille.
Oui. Merci Jérémy Pelletier. La fête est finie, c'est aux éditions de l'Observatoire. On continue de parler des braises et on aura l'hommage d'Emma Beaujean après les infos de midi, ainsi que Tanguy Pastureau. De quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, bonne ambiance Nagui, je vais parler pédopornographie. Voilà, c'est pas moi, c'est Chine.
Hein. Ah oui, c'est Chine ou BHV, exact.
À tout à l'heure.
La bande originale avec Leïla, Camille et Emma Beaujean, Camille Avram, Philippe Petit,
Bonjour.
Les Tam Tam d'Emma, Virginie Efira et Thomas Pétanque.
La bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Virginie Efira à l'affiche avec Arié Vortalter qui partage l'affiche avec elle. Mama Prasinos et également Justine Lacroix, Lou Pinard et Thomas Kritoff donc réalise ce film que vous avez co-signé avec Jean-Baptiste Delafont. Vous le qualifiez d'un film d'amour contemporain, c'est une histoire d'amour essentiellement mais qui est dans un contexte très particulier ou d'un film militant?
Je pense que c'est un pif. Je sais pas si c'est un film militant. En tout cas, c'est un film qui parle de l'engagement politique, mais il est pas militant au sens où c'est pas un film qui vous livre un discours politique tout fait prémâché quoi. Qui se plonge un peu dans la complexité de cette époque, qui est pas si lointaine de la nôtre.
Il encourage à l'engagement.
Ouais, il montre aussi la beauté de l'engagement et ce que ça peut coûter, mais je crois qu'il montre aussi la beauté de l'engagement et ce qu'on peut ressentir de faire partie d'un collectif, de faire partie d'un espoir. Et voilà, le film c'est un petit peu cette chose-là et aussi être au plus près de l'intimité d'un couple qui se fissure dans cette crise quoi, dans le monde ou la politique qui s'invite à l'intérieur de leur foyer et de leur croyance.
Alors c'est ça Virginie, ce que l'on voit c'est que le couple tient depuis 20 ans, il a ses habitudes, il a ses réflexes, et puis d'un coup, lorsque l'un des deux évolue vers une autre voie, tout se met à vaciller.
On se demandait avec Arié, justement, si dans l'histoire que vit ce couple, même peut-être s'il n'avait pas rencontré ce mouvement-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une remise en question obligatoire ? Il y a cette phrase que j'ai déjà dite en interview, elle est un peu basique, mais je l'aime bien, elle est dans les films et tout ça, c'est Lampedusa, et pour que rien ne bouge, il faut que tout change pour que rien ne change. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut placer sur l'amour aussi, l'amour avec la vitalité, enfin un amour vivant, quoi. Ils sont dans un moment qui est particulier, celui où on était parents, et on l'est toujours évidemment, mais les enfants vieillissent, on a un autre rôle à faire avec ça, ils deviennent propriétaires, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi une représentation de précarité forte, puisqu'ils sont propriétaires, mais il faut travailler plus. Il y a aussi cette idée tout d'un coup...
il y a la pression du rendement aussi, lui pour sa boîte.
La pression du rendement, qui crée quand même, bon ça ils sont habitués, ça peut même créer... Ils font beaucoup l'amour ces gens quand même. Oui.
Ça
peut créer aussi
du cinéma,
un désir...
Virginie, c'est du cinéma.
Ah d'accord, ok. ça peut créer des choses de cet ordre-là, mais ça crée aussi des parcours qui se... Qu'est-ce qui fait aussi, au sein d'un couple, on a parlé de qu'est-ce qui fait collectif, mais qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble ? Quel récit on a ensemble et qu'on partage ?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir aussi des divergences de points de vue et peut-être des tensions ou une électricité qui arrive entre les deux, comme aussi une admiration pour l'engagement.
Oui.
C'est-à-dire que d'un coup, il peut aussi se dire qu'il admire le combat.
Je crois qu'au départ, il est un peu contre. Alors, on peut comprendre plein de raisons. Je veux dire, il s'inquiète quand il va en manifestation à Paris, mais il y a aussi peut-être quelque chose d'un ordre plus complexe et plus masculin direct, on va dire, sur elle s'épanouit en dehors de ce que moi je peux.
Elle a plus besoin de moi.
Oui, enfin, tu vois, ça, on,
peut sentir cette chose-là. On peut ressentir à la fois une réjouissance pour ce qui arrive à l'autre, mais il la trouve loin de nous. Comment on fait pour pas se sentir propriétaire? Parce que, là, de nouveau, une phrase basique, mais on a parlé de la politique dans le couple et tout ça, mais le couple, quelque part, il est politique aussi. C'est-à-dire s'approprier l'autre, se dire il m'appartient, enfin, comment on fait avec cette chose-là et tout. Et ce qui est assez beau, pour de nouveau faire un parallélisme, c'est comment on avance vers quelque chose qu'on ne comprend pas, comment on a une altérité au sein du couple aussi, parce que parfois on peut avoir deux trajectoires, on peut se côtoyer, on peut être dans la plus grande intimité, partager le même lit et tout ça, et avoir la sensation de ne pas vraiment connaître l'autre. Et il y a quand même cette espèce de, ok, il y a un mur, mais comment on essaye de le franchir un peu, d'aller un peu vers l'autre, quoi.
Une belle histoire d'amour, Les Braises au cinéma ce 5 novembre, ce mercredi. Voici Tanguy Passion.
Allez copains, je suis content de vous retrouver, je vous fais des bisous. Qu'est-ce que vous avez l'air reposé, beau, et puis l'automne, cette saison magnifique, c'est joli, c'est... Ok, bon, j'ai essayé. À chaque rentrée, j'essaye. Mais c'est pas moi. Moi, toute l'année, je suis à Halloween, je suis de la team ténèbres. Je sais que la vie est atroce. On meurt entre les deux, on regarde Hanouna et on pleure. Quant à l'automne, oui, c'est Mimi. Si t'es dans un film romantique et que tu te balades à New York, mais ce qu'on nous cache, c'est que dans la vraie vie, les trois quarts des gens glissent sur des feuilles humides et se fracassent la tête sur le trottoir devant les proches qui disent, on savait que Tata en avait pas lourd dans le crâne, mais on pensait pas que ça se vérifiait physiquement. J'ai horreur de l'automne. La nuit à 17h, jamais compris le plaisir. On passe notre temps dans le noir. Une coloscopie de 4 mois dans laquelle la micro-caméra serait nous. Ok, dans un mois, il y a Maria Carré et ses reines à la con qui vont égayer tout ça. Mais comment tenir jusque-là? Et puis l'actu me donne envie de pleurer. Mardi, tiens, j'ai été invité sur le JT de TV5 Monde. Ce qui fait de moi une star internationale. Hein, je dis plus bonjour à personne. Et étrangement, ils m'ont mis en deuxième partie de journal, puisqu'ils doivent détester les triomphes d'audience. Bon. Et donc, sur la première partie, il y avait le Soudan. Guerre civile depuis 2 ans, 150 000 morts. En ce moment, c'est la minorité chrétienne qui prend. Il n'y a pas de flottille pour eux. Hein. Greta Thunberg, ça doit être la dernière à avoir un forfait limité. Elle capte plus. Elle a dû passer chez Soch. Et moi, je regardais ça et je me disais, mais quelle indécence de parler de mon actu après des reportages de cette nature. J'étais là, je l'ai fait. Il faut bien apporter un peu de rêve au public. Mais c'était dur. Et avant-hier, 1er novembre, je pensais à la mort, comme en octobre ou au mois de juin. Donc j'étais sur le site rockeclair.com, les pompes funèbres. Et alors, c'est véridique, mais figurez-vous qu'ils font les animaux maintenant. 340 € pour la crémation d'un chien, 102 € si c'est une crémation avec d'autres chiens. C'est-à-dire que si vous aviez un chien sociable qui reniflait tous les anus, ça vous coûte 200 € de moins que si vous aviez un chien acariâtre. Ça ne marche pas pour papy et mamie. Si ma papy, par exemple, était branchée anus, bon, vous ne pouvez pas mélanger ses cendres à celles d'autres papys qui, de leur vivant, disaient des trucs comme moi, ma fleur, à l'arrière de chez Jardiland, tout le monde y touche. Sinon, sachez que les rats, ce qu'ils font aussi les rats, les hamsters, les rats chez Rock Éclair, la crémation, c'est 280 €. Hein, s'il y a 2-3 gauchos à cheveux bleus qui nous écoutent, ça peut être une info fiable quand leur rat, qu'ils ont appelé Che Guevara, va clamser d'une overdose démentale à la 8-6. Donc j'étais sur le site de Rock Éclair, avec la pub que je leur fais, j'espère qu'ils vont m'offrir une tombe. Je la donnerai à la personne ici qui a l'air le moins en forme. Tout le monde sait de qui il s'agit. Quand soudain, j'ai vu passer une info sur Chine, le site pourri qui vend des fringues à pas cher. Chaque fois que j'ai critiqué ces gens, certains ont dit que je faisais du mépris de classe. Mais le vrai mépris de classe, c'est de penser que les moins fortunés n'ont droit qu'à ces produits-là, qui sont ce qu'on appelle en langage technique, des merdes. Bref, achetez ça si vous voulez, moi je comprends. Quand tu payes pour tester une fois des bas, bon, tu es content d'en trouver un 1 € contre 59 € pour ceux de chez Obad. Mais enfin, assez parlé de cette soirée, j'avais bu. Bon, ok, donc vous avez vos sacs à vomi, hein, volés dans l'avion du vol retour de vos congés au soleil, mes amis riches. Préparez-les, on en a parlé pas mal. J'ai du mal à dire ça sans être énervé, mais la répression des fraudes a donc réalisé que Shein vendait des poupées sexuelles à l'effigie de fillettes, avec des nounours dans la main, très réaliste. Fillette, comment définir? C'est comme Lynn Renault, mais à l'autre bout de la pyramide des âges. Je vous lis le descriptif de l'objet, vendu 186 €. Le prix de 186 doudounes sur Chine. Oh. Hein, qui partent en torche dès que vous approchez des bougies d'anniversaire du gâteau des 40 ans de tonton Sylvain. Descriptif, donc, jouet de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus. Oh. Et là, il y a des individus qui, lisant ça, ont cliqué sur « mettre dans le panier ». Moi, j'aimerais que ce soit ces gens qu'on mette tous dans un grand panier. C'est un panier à salade avec des flics devant et qu'on les foute en tôle. Puisque je rappelle que la pédopornographie est interdite. Il a dit quoi en 1912, Yves Duteil? Prendre un enfant par là,
main. Voilà, par la main. Et il ajoute pour l'emmener vers demain. Mais si demain, c'est d'avoir sur des sites grand public, parce qu'il n'y a pas que Chine, de la vente libre de poupées d'enfants avec des anus pour pédophiles, moi, je veux qu'on arrête tout de suite. Hein, Nagui va en Suisse, il en profite pour déposer des fonds, et il revient avec le produit à s'injecter dans le cadre d'un suicide assisté, planqué dans sa basket droite. Oldelaf nous fait une dernière chanson, horrifié, on se pique les uns les autres avec le produit, et on quitte ce monde déviant. Bref, voyez un pays normal avec des ministres qui ont du courage et une liberté d'action. Bon, un truc comme ça, ils fermeraient le site, et basta, à la place, on demanderait à Damar de casser les prix, et toutes les fashionistas se retrouveraient comme des buses à porter des soupules à col roulé. Mais chez nous, non. La fast fashion, déjà, c'est OK. Alors, j'ai lu dans la presse qu'en français, on disait marque de mode ultra éphémère. Wow. C'est-à-dire, tu enfiles un top et je pense qu'il disparaît. Y a Kamel, le magicien, après, qui dit on nous vole nos emplois. Et Chine, c'est l'ouverture d'une boutique cette semaine au BHV. Et vous savez, le grand magasin parisien, le patron du groupe qui gère tout ça s'appelle Frédéric Merlin. Ouais. Il vient de quitter Brocéliande. Voilà, blague communautaire des systèmes en public breton. Allez, pour vous, celle-là, mes petits blignes sarrasins. Monsieur Merlin, donc enchanté, Pasturo. En début de chronique, il y a 37 minutes maintenant, je parlais de la mort. Est-ce que, monsieur Merlin, vous avez envie d'être celui qui, sur son lit de mort, un jour, au moment de tirer le bilan, se dira qu'il a été l'homme qui a blanchi une marque ayant vendu des poupées sexuelles d'enfants à des pédocriminels? Je ne crois pas. Ou alors vous êtes très nihiliste, monsieur Merlin, ou très avide, monsieur Merlin. Bref, boycott. Et que tout le monde se reprenne, parce que ma prochaine interview à TV5 Monde, j'ai pas envie de passer derrière un tel sujet.
Merci, bravo.
Et t'as envie de tuer sur scène dans ton spectacle Un Monde Hostile. Le 12 décembre, par exemple, tu seras à Arès, c'est en Gironde.
Mercredi prochain, sorti au cinéma des Braises, le nouveau film de Virginie Efira avec Harry Vortalter. Et le film est réalisé par Thomas Kruithof. D'autres événements culturels, oui. Leïla.
On cherche un artiste qui annonce son retour, ou plutôt qui va sortir de sa retraite, je sais pas comment le dire, pour un projet. Il a 93 ans. Et il va retrouver son meilleur copain,
Serge Lama.
Steven Spielberg.
Ah. Le timing était parfait. Il manquait un indice. Oui.
Ils ont déjà une trentaine de films à leur actif.
John Williams.
Absolument, bravo, c'est John Williams.
La musique.
Exactement, compositeur de films. Il va reprendre du service pour le prochain film donc, de Steven Spielberg, une histoire d'OVNI avec Emily Blunt et Colin Firth. C'est attendu en salle en juin 2026. On n'en sait pas vraiment beaucoup plus, mais en tout cas, on sait que c'est Steven Spielberg qui a présenté John Williams à George Lucas. Que de ses collaborations différentes, variées, il y a quand même eu pour John Williams 5 Oscars, 4 Golden Globes, 21 Grammys, avec des musiques comme ça, qui ont fait sans doute le succès de certains films. Alors, on parle de Star Wars, D.T., Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Harry Potter aussi, c'est John Williams. Il n'a eu de cesse de créer des environnements sonores qui peuvent nous hanter. Il y a un documentaire à voir en ce moment sur lui, sur Disney+, où on voit vraiment l'étendue de son génie, puisque ce chef d'orchestre-là a aussi composé des pièces musicales qui ne sont pas du tout destinées au cinéma. Et il a réussi, quand je vous dis par exemple 2 notes seulement jouées par des contrebasses, puis des violoncelles et des contrebassons. Ces 2 notes qui sont jouées de plus en plus rapidement.
Les dents de la mer.
Les dents de la mer, tout simplement. C'est des choses comme ça, des petites trouvailles assez géniales.
Mais ça, c'est lui.
Ouais, c'est ça. Il a fait le jingle d'RTL aussi, je crois.
C'est aussi des phrases musicales. Il invente aussi ce concept-là du leitmotiv musical. On pense à Star Wars notamment, avec cette musique comme ça, héroïque, grandiloquente. Cette musique symphonique, à un moment où, dans le cinéma, on utilisait plutôt du rock. Et il a fait en sorte aussi que cette musique revienne au goût du jour, avec un leitmotiv par personnage. On connaît forcément le leitmotiv du la la la, la fa do la. La, fa, do, la, fa, do, la. Et comment il a fait en sorte justement de mixer.
C'est moins effrayant avec les notes.
Eh oui, c'est vrai. Comment il a fait en sorte de mixer en fait le leitmotiv par exemple d'un Dark Vador avec le leitmotiv d'un autre personnage. Et par exemple, dans le film, quand les personnages commencent à s'aimer, et puis les leitmotivs se mélangent. Donc il y a aussi une écriture à travers la musique. John Williams donc qui reprend du service. Est-ce qu'il y a une musique de film en particulier qui suscite une émotion particulière chez vous? J'ai cité Les Dents de la Mer, j'ai parlé de Star Wars, j'aurais pu parler aussi de La Liste de Schindler, de toutes ces musiques comme ça qui font qu'un film devient
XXL. Est-ce que vous avez un exemple en tête, l'un et l'autre?
On en a énormément. Je pense à quelque chose, parce que vous parliez du documentaire. Moi, je viens d'en voir un sur Ennio Morricone, ouais. Vachement bien. Je crois que sur France 5, je ne sais plus. Hyper beau, et donc aussi avec toutes les inventions par rapport au western, ouais. Et puis où est-ce qu'il part, et tout ça. Enfin, un génie aussi, même en dehors de ses bandes originales. C'est difficile, au moment où on pose la question, tout vous échappe toujours. Ouais. Il y a aussi des trucs qui on peut pas dire c'est ringard et tout ça, du tout, mais il y a aussi des choses...
Vous avez choisi ça?
C'est moi qui ai choisi ça? Ah non, Ah non, mais c'est parce que vous avez demandé une année aussi.
Ah ouais.
Et du coup, vous m'avez parlé de elle, parce que j'ai joué dans deux films de Paul Verhoeven.
Ouais.
Et ah oui, c'est génial ça. Donc c'est la musique de Basic Instinct. Et Basic Instinct, un film dément, mais qui est très influé par Vertigo. Ou la musique aussi, la musique des films d'Hitchcock, tout ça, c'est dément. Et ça marche toujours. Ouais. Ma fille adore faire un truc, c'est aller faire du vélo la nuit. Enfin, en vacances, on fait ça. Et des musiques qui font peur.
Ah ouais.
La musique de Psychose. En faisant du vélo la nuit, c'est franchement génial. Après, il y a plein de choses de Frédéric Sard, de Vladimir Kosma.
Oui,
que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et après, des choses très grandiloquentes aussi, comme. comment ça s'appelle?
Elle tape Thomas quand elle cherche des mots.
Peut-être le plus, évidemment, j'ai oublié, il y en a deux.
De Sakamoto?
Sakamoto peut-être.
Ryushi Sakamoto.
Deux choses. Et quand même là, je suis en permanence dans Miyazaki tout le temps. La musique de Chihiro.
Ouais.
Qui est le compositeur?
Joe Hisaishi.
Voilà. Ça, c'est une chose qui est inouïe. Et Badalamenti chez David Lynch, c'est des atmosphères dans lesquelles on va tout le temps. Et on va dire le plus basique, mais le générique de Twin Peaks et tout.
Ah ouais, ça file les chocottes.
Simplement revenir, Virginie Efira, sur ce qu'a dit tout à l'heure Tanguy Pastureau et sur ce scandale de cette poupée qui est vendue par Shein. Et le scandale Shein. Vous êtes engagé pour la protection des enfants avec Caméléon Association,
oui.
C'est ça?
Oui. Qui travaille qui travaille en Philippines, qui travaille en France, qui travaille à la fois sur la prévention et après sur une manière de avec les victimes, de leur offrir une éducation, de leur offrir une
violence sexuelle.
De vie. Oui,
voilà. Le site, c'est caméléon-association.org pour ceux qui veulent des informations.
Merci d'en parler.
Vous êtes la marraine, c'est la moindre des choses. Voici l'hommage des Mabo Jean.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à France Travail. Alors j'ai bien conscience que faire une chronique sur France Inter pour parler de chômage et remercier le concept, c'est vraiment tendre le bâton du diable et les bolasses pour me faire battre. Autant directement sortir mon djembé et chanter Babylone, Babylone, tu nous auras jusqu'au dernier. Allez hop, première sortie de route sur l'autoroute du kiff. Non mais je sais pas, écoutez, je crois que ce matin je me sens d'humeur gauchiasse. Est-ce que peut-être c'est parce que j'ai croisé Holdolaf en arrivant avec sa dégaine qui donne envie de l'appeler camarade et de lui acheter un cendrier en canette? Peut-être bien. Mais merci France Travail. Grâce à vous, quand je vais travailler, je me dis que je suis dans une situation un petit peu moins précaire que si vous n'étiez pas là. Rapport à l'intermittence. Et surtout, grâce à vous, je voyage. Puisque France Travail Spectacle se situe dans le 15e arrondissement. Ouais. Et oui, alors pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ne connaîtraient peut-être pas bien Paris, eh bien sachez que pour nous qui habitons dans cette ville, le 15e arrondissement, on ne le connaît pas non plus. Dans toutes les villes, il y a toujours un petit coin comme ça qu'on visite jamais, sauf quand il faut amener l'anneau pour le détruire dans la montagne du destin. Oh, c'est une référence au Seigneur des Anneaux.
Oui.
En fait, je me suis dit qu'il était temps que je regagne le cœur des geeks avec cette chronique, mais je vois déjà les commentaires d'hommes bienveillants sous cette vidéo. Pardon, mais pour qui tu le prends, en fait, il a parlé de l'œuvre de Tolkien. Bouffonne, pardon, on dit le monde éteint, en fait. Ou encore, elle t'avait déjà gagné notre cœur avec la chronique où t'avais pas mis le tout-kiff, on voyait tes pièges. Bisous, mes petits hobbits. Revenons donc à France Travail. Et ces conseillers superbes qui font ce qu'ils peuvent pour nous aider à trouver du travail. Parfois qui galèrent un peu, on va pas se mentir. En même temps, je peux pas leur en vouloir, hein. Chaque fois que j'y vais et que je dis à ma conseillère, j'aimerais trouver du travail en tant que comédienne. Bon, la première fois, elle a mal compris, elle m'a trouvé du boulot en tant que gardienne. J'ai finalement réussi à l'avoir ma loge dans un immeuble à Bobigny. Non, mais c'est très étrange de dire que tu vas être comédienne à France Travail. Tu vois mal ton conseiller se transformer en Camille Cotin dans 10%. Comédienne, ma belle? Ok, pas de souci. Alors, j'ai reçu un scénar d'un petit nouveau, pas dégueu. C'est pour pour le rôle de la sœur un peu paumée, naturelle, fragile, très conne, très proche de ta vérité, en somme. Et puis un court-métrage d'école, alors pas payé mais défrayé, puis réseau en or en fait, parce que le réal sort de la Fémis. Le film a un potentiel festoche de fou malade. C'est ce qu'il te faut. En plus, faut être à l'aise avec la nudité parce que tu vas être à poil tout le film. Mais tu vas être super à l'aise parce que tu joues la fille qui se tape le héros, qui s'avère être le réal, le héros. Et d'ailleurs, il avoue que tu lui envoies une vidéo un peu perso dans les conditions du tournage, et aussi, il faut le sucer. Deuxième et dernière sortie de route. Plus sérieusement, moi, j'ai 24 ans, j'ai jamais fait d'études, et à part être animatrice télé sur une chaîne jeunesse avant et sur France Inter aujourd'hui, j'ai eu que des tafs alimentaires avec des vrais étudiants. Et on était en galère de fou, d'accord? Tu sais, les étudiants où ça dort à trois dans un appart pour un. Alors, avec mes collègues de la pizzeria, du babysitting, de la salle de sport, du glacier, du bar, de la billetterie du cinéma, des ouvreurs du théâtre, du snack de la fac, du office dépôt de Strasbourg ou du Bagelstein de Montpellier, on veut vous rappeler que les étudiants en France travaillent souvent beaucoup plus que France travaille. Et c'est d'ailleurs plutôt eux que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Yes, merci, bravo.
Et on me dit qu'Emma Beaujean est tous les vendredis à 21h au Théâtre des Mathurins.
Votre vie privée, on n'en parle pas, Virginie Efira, mais le film Vie privée, on peut en parler, il sortira là au mois de novembre.
Ma vie privée aussi, allons-y.
Non. Le 26 novembre, nouveau film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste et vous.
Ouais, wow. Pas mal, hein. Ouais. C'était.
Quel est votre personnage? Merci. Vous avez.
Attendez, c'est quand même. Je suis psychanalysée par Jodie Foster. Ah. Écoutez, il y a pire, quoi.
Ouais.
Et je suis décédée aussi dans le film.
Très bien.
Voilà.
Il ne faut pas spoiler la fin.
Non, ça, c'est dès le début.
Quel est votre prochain projet, Thomas Christophe?
Merci.
Elle m'a regardé. Non, mais je suis encore là à la fin. Thomas Kutoff,
je ne sais pas.
Non, sans blague.
Non, je ne sais pas. Non, je mijote. Là, il faut que je me détache du film qui sort mercredi. Et voilà, j'ai quelques idées.
En tête ou rien en... Oui, des petits.
J'ai des choses en tête que je travaille avec Jean-Baptiste Delafont, avec qui j'ai écrit ce film et mon précédent, mais rien que je puisse
pitcher
ou un peu dévoiler. Oui, parce que ça m'affaiblirait peut-être. Non, il faut que je passe à autre chose.
Restons concentrés sur mercredi. Ouais, les Braises avec Virginie Efira et Arié Voortalter, qui est absolument remarquable, tout autant que vous. Ouais. Virginie, des excuses à présenter, Bruno Pecchi.
Oui, j'en ai pas mal là. Alors désolé déjà pour Éric Zemmour, qui m'a appelé pendant la pause pour me dire qu'il trouvait qu'une bande originale présentée par Christophe Nagui et Laetitia Kanour aurait plus de gueule.
Ah ouais, alors,
je crois savoir que Tanguy est d'accord. Moi, je suis partagé.
Mais non.
Désolé pour Sud, la CGT, la CFDT, France Ouvrière et tous les syndicats de Radio France qui ont découvert en début d'émission cette bande molle de vendus et de collabos qu'on avait autour de la table et qui va jamais en manif. Voilà, heureusement que Leïla et moi, on était là quand même. Hein. C'est notre côté Radio Nova. Désolé pour Emma Beaujean, Nathalie Portman, Charlotte Cardin et toutes les femmes insultées par Camilla Pabbe.
Voilà.
C'est vrai que c'était abrasif. Et encore, on n'a pas entendu ce qu'elle a dit en off sur Virginie Efira. Sybille Veil, la présidente de Radio France, et Rachida Dati. Voilà, Camille, je te souhaite un bon chômage.
Demain, c'est Raphaël qui sera notre invité pour son nouveau spectacle. Et mercredi, Les Braises sortira au cinéma. Merci Virginie Efira.
Merci à vous.
Bon tournage. Avec Pierre Ninet, merci beaucoup Thomas Kutoff et encore bravo pour ces braises. À demain, tout de suite, les carnets de campagne Dorothée Barba. Bonjour.